Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Dwayne.
Hello tout le monde.
Et d'ATH.
Bonjour, bonsoir.
Alors, avant de commencer le sommaire de l'actualité de cette semaine, je voulais lire une remarque d'un de nos auditeurs en commentaire de la dernière émission. C'est une remarque de notre cher Prior365 qui nous disait, même sans montrer vos têtes, il faisait bien évidemment référence au fait qu'on disait durant l'émission qu'on n'avait pas envie de montrer nos gueules durant les directs. L'image, ça peut être utile pour montrer des photos ou des vidéos relatives à l'émission. Après, il va falloir passer quelques week-ends pour maîtriser OBS, voire le lundi, effectivement. Alors, c'est une très bonne suggestion, je trouve. Écoutez, j'étudierai la question, parce que c'est vrai que pour le coup, utiliser le direct pour montrer ce dont on parle, etc., ça peut être fort utile.
Alors moi, je veux bien me montrer en photo, mais il va falloir hacker les gars.
Non mais ATH, ouf, encore une fois, c'est pas la question là qu'on te demande, c'est pas le sujet, voilà.
Ah non, moi je sais que si on me donne de l'argent,
tu
je veux bien.
Tu as un ego, mais quand même.
Moi je veux bien, mais ah bon, mon image vaut un peu cher, donc voilà.
Bon allez, au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera d'une console portable dont tout le monde se fout. On enchaînera ensuite sur les jeux tel. On parlera de THQ Nordic, jusqu'où iront-ils. On évoquera également GOG Galaxy V2. Nioh 2, ainsi que le reboot de Call of Duty. Sans oublier notre jeu du moment, c'est un jeu dont tout le monde a déjà parlé, mais on va quand même mettre notre petit grain de sel. Je veux bien sûr parler de Plague Tale Innocence. Allez, c'est parti, on va commencer, messieurs, comme je disais, avec la console dont tout le monde se fout. C'est une console qui s'appelle la Playdate. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble fortement à un espèce de Game Boy à l'ancienne, avec une petite originalité, c'est-à-dire un petit levier sur le côté, qui va être utilisé visiblement pour certaines mécaniques. Il y a un petit gif qui traîne sur leur site officiel, où quand tu fais tourner le levier, par exemple, ça fait avancer le personnage ou ce genre de choses. Bon, honnêtement, en dehors du côté moqueur de cette news, j'ai vraiment l'impression qu'en fait c'est un gros délire de gens qui ont un peu trop d'argent et qui veulent se faire plaisir. Ils ont contacté des créateurs assez connus pour faire des petits jeux et ainsi de suite. Bon, s'ils veulent se faire plaisir, pourquoi pas. J'espère vraiment que c'est ça, parce que s'ils pensent vraiment vendre aujourd'hui une console portable en noir et blanc, quand même elle a une petite originalité d'un point de vue hardware, voilà, j'ai très peu d'espoir. Donc sinon, non, à part ça, oui, si vous voulez. Ouais.
Non, non, mais je suis totalement d'accord. Et en plus, ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, ils l'ont fait en très petite quantité. Il y aura pas énormément de stock dispo. Derrière ça, ils disent bien qu'ils ont pas mis tous leurs œufs dans le même panier, que c'est vraiment un délire. Donc la façon dont ils en parlent, ils se sont pas mis en tête de faire vraiment de la thune avec ça, quoi.
C'est
vraiment.
De toute façon, c'est un espèce de Game & Watch moderne. Quoi,
ouais, en plus il y a cette manivelle là, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec ça. D'ailleurs, ouais, j'ai vu, c'est plutôt intéressant le jeu, le petit gif, c'est le jeu. Alors comment ça s'appelle ? Time Travel Adventure, donc c'est le jeu de Takahashi, donc c'est le créateur de Katamari Damacy. Mm-hmm. Donc ça peut être intéressant de voir, c'est une saison où à chaque semaine, il y aura un petit jeu et ils ont plusieurs créateurs indés intéressants. Donc ça peut être un petit truc cool, mais même eux, ils sont conscients du potentiel
du non potentiel de vente.
Voilà, petit gadget plutôt cool qui peut se vendre un peu. Mais on n'est pas là pour sauver la boîte.
Ouais, mais le prix quand même, il reste assez cher pour une console monochrome. C'est $149. Donc, si ça doit sortir en France, ça serait environ 150€. Hein. Et il faut savoir que c'est l'entreprise Panic qui est derrière. C'est ceux qui avaient édité le jeu Firewatch.
Et c'est à peu près leur seul sel d'arme hein, dans le jeu vidéo, je précise. Donc,
à la base, c'est ils créent des utilitaires pour Mac et iOS. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le fait d'avoir des jeux proposés par saison. Mais bon, pour 150€, tu peux trouver une Nintendo 3DS ou bien une PS Vita. Et le catalogue, je pense qu'il sera beaucoup plus fourni, avec des meilleurs graphismes et plus de jeux. Avec un prix avoisinant les $50, j'aurais dit pourquoi pas, tu vois, ça aurait pu être un objet collector. Mais là, 150 quand même, c'est cher. Et pour finir sur les news, OZEF, aujourd'hui, le store de la Ouya qui a fermé ses portes. Et ça, je pense que tout le monde s'en fout, parce que tout le monde avait oublié cette console.
Et eux, pour le coup, ils avaient vraiment des ambitions.
Ah ouais, ouais, c'est clair.
Qui étaient un peu trop démesurées, au vu de leurs moyens.
R.I.P.
Ouais. Bon, On va enchaîner sur une news qui est bien triste, c'est les jeux Telltale qui disparaissent peu à peu du PC. Alors je rappelle déjà qu'en 20 années dernière, les jeux Telltale avaient été retirés de Steam, mais cette fois, on attaque un autre morceau, c'est GOG, puisqu'il a été annoncé que les jeux de Telltale seraient retirés du store à partir du 27 mai. Donc malheureusement, quand ce podcast sera sorti, il sera trop tard pour vous, hein, n'est-ce pas ? J'espère que vous comptiez pas sur Game Info pour vous informer ce genre de choses à l'avance. C'est bien évidemment la conséquence de la fermeture de la boîte. Il faut le temps que Skybound, qui appartient au créateur de Walking Dead, récupère les licences, qui renégocie les contrats, parce qu'évidemment, il faut renégocier. Vous imaginez, depuis le temps que ça a disparu de Steam, c'est toujours pas revenu. Donc voilà. Ouais, donc clair. Il va falloir patienter. On espère quand même que ça finira par revenir, même si bon, honnêtement, après, comme ces jeux-là étaient sortis en DRM free, à la limite, si vous voulez absolument les jouer sur le PC, c'est récupéré par d'autres voies, si je puis me permettre. Voilà.
Mais il y a quand même une possibilité que ces jeux-là reviennent plus tard, parce que un représentant de 2K a confié plutôt à Rogamer, qui travaillait à ce que certaines licences puissent revenir dans certains stores.
Ouais, bah c'était surtout par rapport à Tales of Borderlands.
Ils avaient édité
quoi.
Eux, par contre, parce que ouais. Tales of Borderlands, c'est 2K. Hein.
Ouais, mais après, ils pourraient pas, tu vois, récupérer d'autres jeux.
Ouais,
comme,
mais je pense que
Walking
c'est.
Dead.
Non, mais c'est sûr que ça va revenir.
Je pense que
hein.
Ce sera plutôt ouais, Skybound qui va récupérer tout, quoi.
Allez, messieurs, on va enchaîner sur THQ Nordic, dont je me demande toujours d'où ils sortent l'argent, parce que THQ Nordic a encore annoncé un rachat. Hein. Alors, encore une fois, c'est pas une boîte qui est ultra connue en dehors d'un certain public de niche, c'est Piranha Bytes, une boîte que j'adore personnellement, puisque c'est la boîte à l'origine des Gothic, ou des Ryzen, par exemple. Ils ont annoncé le rachat du studio allemand, n'est-ce pas, qui était indépendant ces dernières années. Et en plus, histoire d'illustrer le fait que l'argent est illimité chez THQ Nordic, ils ont également insinué que ils avaient actuellement 48 jeux non annoncés en développement, n'est-ce pas ? Parce qu'on a tellement trop d'argent que voilà. 48
ouais, là,
jeux
le,
non
le
annoncés. Bon après, je me doute que dans la plupart de ces 48 jeux, c'est des projets absolument mineurs, tu vois, mais c'est quand même des moyens, enfin ça fait quand même du peuple quoi qui doit bosser sur des jeux là en ce moment. Et du coup, ça me fait quand même un peu peur parce que je me dis plutôt que de mettre des moyens sur un nombre un peu plus restreint de jeux, est-ce que à partir de tout azimut comme ça, finalement, c'est pas prendre le risque d'éparpiller ses moyens et d'avoir une qualité générale qui tend vers la baisse, quoi.
Mais voilà. Il faut savoir voilà. Que sur ces 48 jeux, qu'il y a des jeux qui sont aussi édités. Hein. C'est pas tous des jeux qui vont être développés en interne chez THQ. Voilà. Par exemple, avec Deep Silver, ils vont éditer Shenmue 3. Mais il y a quand même des licences qui coûtent assez cher. Par exemple, ils avaient racheté la licence Darksiders, ils ont sorti le 3. Et voilà, ils sortent quand même pas mal de thunes en ce moment, THQ. Et moi, je sais d'où ils sortent cet argent, parce que j'ai regardé un reportage sur France 2 avec Cash Investigation. Et c'était l'affaire Nicolas Sarkozy, Kadhafi qui sortait de l'argent, des mallettes de 20 millions de dollars. Et apparemment, au bout d'un moment dans la liste, il y avait THQ Nordic qui est apparu ici dans un contrat. Donc voilà, vous savez.
D'accord. Merci à TH pour ton journalisme total, n'est-ce pas?
C'est quoi?
Ah mais c'est ça. Au bout d'un moment, d'où ils sortent toutes ces thunes, quoi. C'est ça que je veux savoir. C'est ce que. Ok, t'achètes des petites licences qui coûtent pas très cher, mais une petite licence, petite licence, petite licence. Au bout d'un moment, ça commence à coûter un peu d'argent, quoi.
Bah, surtout que ça commence à coûter cher parce qu'il faut les développer. Et quand on t'annonce qu'il y a 48 jeux de développés, bon. Dwayne, tu voulais ajouter quelque chose?
Ouais, non, moi, en fait, ça me fait penser à cette différence entre Devolver et d'autres petits éditeurs indés. Par exemple, on a Tiny Build, que j'avais suivi au départ, parce qu'ils avaient fait un petit jeu multi Speedrunners, auquel je jouais pas mal. Et eux, la différence avec Devolver, qui se concentre vraiment sur de la qualité, etc., c'est qu'ils arrêtent pas d'enchaîner plein de petits jeux indés, et ils en ont tellement que la qualité, pour moi, je trouve qu'elle baisse énormément par rapport
bah,
aux...
Des fois, t'as du bol, t'en as un bon qui sort.
Ouais,
mais
voilà, c'est
quoi.
Ça.
Et j'en profite aussi pour le rachat de Piranha Bytes. J'espère, franchement, qu'ils vont faire des séances de QA de leurs jeux, parce que Ryzen...
Ah, c'est le gros problème
gothique,
des
ouais,
jeux Piranha Bytes, hein, de toute façon.
C'est des usines à gaz, mais monstrueuses. Là, j'espère vraiment qu'ils sortiront dans des états un peu mieux finis, parce que on dit souvent, ouais, Bethesda, avec leur licence comme The Elder Scrolls ou Fallout, c'est compliqué. Mais franchement, je pense que les gens qui ont dit ça, ils ont pas touché un jeu Piranha Bytes, parce que c'est encore plus compliqué que Bethesda. Donc, il faut imaginer, tu vois, le level, quoi.
Ouais, enfin, pas compliqué au niveau de la Fallout 76, par contre, on est d'accord.
Non, ça c'est... ce jeu-là n'a jamais existé, c'est un spin-off d'une timeline parallèle. Un jeu comme ça, enfin, dans les conditions réelles du marché, n'aurait jamais dû sortir. Et je sais même pas pourquoi ils ont sorti ça, tu vois.
Peut-être qu'un jour on aura la réponse, je ne sais pas, mais ouais. Bon, messieurs, on va enchaîner sur une news, ma foi, qui m'a étonné. C'est l'annonce de GOG Galaxy V2. Galaxy va devenir en quelque sorte le nouveau Playnite. Playnite, je le rappelle, c'est un launcher qui a pour but de vous permettre sur PC de tout centraliser sur une librairie, sur un programme. Et quand vous lancez un jeu depuis Playnite, à ce moment-là, ça lance le jeu depuis Steam, etc. Donc ça centralise, en gros. C'est l'objectif affiché de GOG Galaxy. Ça plus le fait qu'ils veulent vous aider également à centraliser vos librairies sur console, etc. Alors, d'aucuns pourraient se demander, ouais, ok, d'accord, encore un launcher qui va pas respecter ma vie privée, n'est-ce pas ? Alors, ils annoncent, en même temps, ce n'est que des paroles pour le moment, hein, on n'est pas obligé de les croire non plus, mais ils annoncent que la vie privée, c'est un truc essentiel chez eux. Si vous voulez supprimer les données qu'il y a chez eux, il y aura un bouton pour faire ça, vous cliquez dessus et on n'en parle plus. A priori, il y aura pas non plus de commercialisation des données. Donc bon, écoutez, moi je dis pourquoi pas. Maintenant, j'ai envie de dire, il y a déjà un launcher qui faisait ça, c'était Playnite. J'attends de voir l'apport de ce que va faire Galaxy, si ce n'est les moyens de CD Projekt pour promouvoir le truc et peut-être... convaincre certains éditeurs d'ouvrir leur launcher. On sait que Playnite s'est heurté à pas mal de difficultés de ce côté-là, parce que autant sur GOG et Steam, ils arrivaient à récupérer des infos, autant le reste. Voilà. Est-ce que ça va apporter quelque chose en plus ? Je ne sais pas.
Ouais, mais il faut quand même y aller à la confiance, déjà, pour le respect de la vie privée, parce que personnellement, une entreprise qui me dit ça, j'ai eu du mal à la croire. C'est pas parce qu'ils disent ça qu'ils vont forcément faire, hein. Et tu pourras pas le vérifier, mis à part de si tu travailles directement là-bas. Et après, moi, il y a un truc que je trouve intéressant, en fait, dans toutes ces fonctionnalités, mis à part le fait que la bibliothèque soit unifiée. C'est pas forcément quelque chose d'intéressant pour les joueurs, mais plus pour la presse ou des gens qui voudraient écrire des articles. Ça serait les statistiques variées d'utilisation de jeux. Et ça, je pense que ça peut être très intéressant pour ceux qui étudient l'économie du jeu vidéo. Combien de personnes ont fini un jeu, ou bien tel type de jeu, pourquoi plus de monde est allé au bout, qu'est-ce qui a fait le succès du jeu, et d'essayer de comprendre un peu comment cette industrie fonctionne. Parce que grâce aux trophées, tout ça, on a déjà certaines indications, nous, à la maison, de savoir combien de personnes, par exemple, ont fini God of War, si vous voulez le savoir. Bah, vous allez dans God of War, vous regardez le succès de fin, et vous savez combien de personnes à peu près qui ont lancé le jeu l'ont terminé. Et je pense que d'avoir des statistiques comme ça, ça peut être sympa, quoi.
On précise aussi que les statistiques des joueurs sont partagées entre les plateformes, c'est-à-dire que ça pourra enregistrer, si vous jouez au même jeu sur Steam ou sur GOG par exemple, ça cumulera les deux en fait.
Ouais.
Voilà, c'est l'objectif à terme. Qu'est-ce que j'ai ajouté, Dwayne ?
Ouais, non, moi je trouve ça vraiment sympa. Après, j'ai envie de voir la différence entre Playnite et GOG Galaxy. Il y a aussi le fait que voilà, CD Projekt, ils ont quand même les relations par rapport au fait qu'ils font des jeux multiplateformes, donc ils ont les relations un peu partout, donc peut-être que ça pourra faire avancer un peu plus vite les discussions, parce que là, clairement, un service comme ça, si t'as pas la possibilité de récupérer les données facilement des comptes Microsoft, Sony, etc., l'avantage quand même d'un service comme ça, c'est qu'on puisse avoir tout et que les joueurs consoles puissent avoir leur stats sur PC avec leurs amis, etc. Donc vraiment, la vie et la mort d'un service de ce type qualitatif, ça va être de réussir à discuter avec les différents éditeurs, quoi. Les différents constructeurs.
Et Dieu sait que les constructeurs sont très, très peu coopératifs. Déjà, quand tu vois que Sony, ne serait-ce que pour le cross-platform, fait des pieds et des mains pour ne surtout pas faire en sorte que les gens puissent jouer avec d'autres machines. Mm. Je doute très fortement qu'ils feront quoi que ce soit pour favoriser la chose. Enfin bref, messieurs, je vous propose qu'on passe sur Nioh 2. Bon, Nioh 2 annoncé, principale nouveauté, j'ai envie de dire la transformation en démon. Ça a l'air cool, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, ATH, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression de revoir le même jeu quand même. Hein. Après, c'est vrai que, encore une fois, c'est Japon féodal, etc. Mais j'ai vraiment l'impression de revoir des réutilisations d'assets, etc. Et Déjà que Nioh, premier du nom, ça serait pété pas mal au bout d'un moment sur les décors. Là, j'ai un peu peur que la lassitude vienne vite, sauf si bien évidemment, sur le gameplay, il y a des changements assez drastiques.
Ouais, mais déjà, ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que le jeu, il est plus nerveux que le premier. En termes de gameplay, ça a l'air...
Qui était déjà bien nerveux quand même.
Ouais, ouais. Mais là, ça a l'air encore plus speed, au premier abord. La transformation en démon, comme t'as dit, ça peut être sympa.
À voir si c'est pas juste un gadget, par contre.
Ouais, voir si c'est un gadget ou si, justement, à contrario, c'est trop cheaté et qu'il y a plus de challenge qui en découle en partie standard. Après, ce qui est intéressant, qui a été annoncé aussi, c'est que le jeu, bah, on jouera pas un personnage prédéfini. Cette fois-ci, on va créer notre avatar, un peu.
D'ailleurs, on pourra même choisir son sexe. On le voit dans la vidéo. Ouais. Un avatar féminin ou masculin. Donc, on voit tout de suite que ça sera notre avatar à nous.
Voilà, quoi. Ça sera plus Geralt de Rive qui fait du tourisme au Japon féodal. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que bah il y aura une partie de déjà en bêta test qui va être fait justement là du 24 jusqu'au 2 juin. Donc il y a certains joueurs qui ont pu tester un petit peu de la bête qui est uniquement sur PlayStation 4 pour le moment. Mais comme tu l'as dit, moi mon gros reproche que j'ai à faire à Nioh 2, c'est que déjà ça ressemble beaucoup trop à Nioh 1 en termes de texture et graphisme. Mais déjà rien que le premier, moi ça m'avait saoulé parce que le bestiaire je trouvais ultra limité. Et refaire 5 fois la même grotte, au bout d'un moment, tu vois, j'en ai un petit peu marre. Bon, j'ai pas trop comparé les deux jeux, même s'il y a certaines similitudes. Mais par rapport à un Dark Souls, tu vois, par exemple, la narration environnementale d'un Dark Souls, ça me parle beaucoup plus. Alors que là, j'avais l'impression d'être dans une grotte totalement random. Ça aurait pu être dans Nioh, ça aurait pu être dans Dynasty Warrior, ça aurait pu être dans n'importe quel jeu qui se passe au Japon féodal. C'est pas un jeu qui m'a marqué, et j'ai trouvé vraiment le jeu ultra répétitif, et surtout qu'il était ultra long. Enfin voilà, et du coup, je vois, j'ai pas envie de me lancer dans Nioh 2, mis à part si les nouveautés apportent quelque chose en plus et que le jeu soit pourquoi pas un peu plus simple, pas dans ses mécaniques, mais un peu plus simple dans le terme de construction de l'univers. C'est-à-dire que tu fais une grotte, mais si tu l'as fait une fois, après, on essaie d'innover, d'apporter quelque chose d'autre. Et le truc qui me rassure un petit peu quand même dans la bande-annonce que j'ai vue, c'est que le bestiaire a l'air d'être déjà plus fourni que le premier, de ce que je vais pu en voir. Il y a vraiment des créatures que j'ai pas vues dans le 1. Là, je me dis, ça peut être sympa, il y a des espèces de méduses à la God of War, premier du nom et tout. Donc je me dis, bon ok, je vais laisser le bénéfice du doute, même si là pour l'instant je suis pas ultra chaud, déjà que le premier je l'ai pas fini. C'est pas pour me lancer dans le 2 tout de suite quoi.
Moi je me dis, si on peut pimper sa forme démoniaque, je pense que là ça y est c'est bon. Ils vont faire des ventes absolument gargantuesques. Sinon moi, le point où je les attends, c'est toute la partie loot. Moi c'est ça qui m'a fait lâcher le premier. Enfin le côté je ramasse plein de merde avec juste des différences de statistiques mineures sur l'objet. Enfin je préfère mille fois l'approche Dark Souls où quand tu changes une épée, bah tu vois tout de suite que tu as changé d'épée.
Ou bien qui diminue le loot quoi.
C'est pas juste une histoire des stats, c'est vraiment un côté quand tu changes d'arme, il se passe quelque chose quoi, tu le sens. Et c'est pas juste je vais looter 3000 fois la même arme en espérant avoir les stats que je veux comme dans un hack and slash alors que c'est pas un hack and slash.
Ouais, mais c'est ça, mais enfin moi, que le loot, il y en a encore dans le jeu, ça me dérange pas. Mais par contre, il diminue grandement le drop, quoi. C'est-à-dire que...
Bah, qu'on ait des armes uniques, tout simplement, quoi.
Ouais, même, tu peux avoir des armes de merde, pourquoi pas.
Ouais, mais uniques. Dans Dark Souls aussi, t'as des armes de merde.
Ouais.
Mais elles sont toutes quelque chose de spécial, quoi.
C'est ça. Alors que là, dès que tu tues quasiment un mec, tu drops son arme, son armure, son équipement, tu vois, c'est genre... Bah, ça fait trop... C'est-à-dire, en fait, le jeu, si tu veux vraiment optimiser ton personnage à fond... T'avançais, tu butais un mec, ok, bah tu droppais son inventaire, et après tu faisais bon bah ok je prends ça, oh encore un mec, bah tu fais pareil, tu répètes l'opération, et ça hache trop pour moi l'action. Et du coup, bah si tu voulais vraiment optimiser à fond, fallait jouer de cette manière là, et c'est ça qui moi aussi m'a un peu rebuté dans Nioh.
Bah il fallait en plus passer 3 plombes dans des menus qui étaient vraiment pas ergonomiques. Quoi.
Ah mais même tu vois, même si c'était ergonomique, c'était... Tu vois, dans Dark Souls, les menus, ils étaient pas du tout ergonomiques, c'était dégueulasse, mais voilà, on l'a...
Oui, enfin... mais en même temps, t'avais pas 3000 armes comme dans Nioh, tu vois. Alors déjà, dans Dark Souls, ça faisait râler, hein. Je rappelle quand même que s'il y a bien un point que j'ai toujours critiqué dans Dark Souls, c'est ces menus de merde, quoi.
N'oublie pas la caméra
oui,
de merde.
Oui, la caméra, mais en plus, l'inventaire de merde dans un jeu où t'as plein de merde à ramasser, c'est pas possible.
Ouais, parce qu'il y a aussi les armes, les armures, puis tout ce qui est aspect... nourriture, des potions, des parchemins qui permettent de booster un peu ton personnage et tout. Enfin, il y avait vraiment plein de choses. Et il y a aussi quelque chose qui était pas trop bien géré, c'était le mode le jeu en ligne. C'est-à-dire quand il y avait un mec qui était mort, bah si tu le butais, tu pouvais récupérer son équipement aussi. Donc du coup là, ça rajoute encore cette mécanique de loot. Là, ça serait bien qu'ils essayent d'intégrer justement une mécanique de jeu en coopération, pourquoi pas, plus intéressante. Surtout que chacun crée son avatar. Il y aura pas le fait d'avoir deux Geralt de Rive qui se rencontrent. Bah, ok, bah, viens m'aider dans ma zone, tu vois. Et comme ça, on peut progresser ensemble. Et vice versa. Ou bien, voilà, avoir des duels, ce genre de choses-là, ça pourrait être sympa dans Nioh 2.
Ouais. Bon, on enchaîne, messieurs?
Yep.
On va maintenant terminer sur le jeu vidéo qui tourne en rond. On va bien évidemment parler du reboot de Call of Duty Modern Warfare. Alors c'est parti Twitter, au départ c'était une rumeur, comme quoi le prochain Call of Duty s'appellerait Call of Duty Modern Warfare, tout simplement, un reboot total. Au départ, moi je vous avoue que j'étais dubitatif, jusqu'à ce qu'un certain monsieur Jason Schreier dise « oui c'est vrai en fait ». Donc quand Jason Schreier dit « oui c'est vrai », j'ai tendance à croire, voilà. Donc c'est pas encore officiel, mais j'ai tendance à croire. Et je sais pas pour vous, mais moi quand j'ai vu cette news, je me suis dit « putain mais on est pire que cinéma en fait ».
Ouais.
C'est d'une tristesse, je trouve, quand on arrive à un stade où les mecs se disent « on a sorti tellement de jeux dans cette série que ça devient ridicule ». On va remettre le nom de l'épisode qui a fait que la série a totalement explosé. Et vas-y, c'est reparti comme en 40, quoi. Enfin, surtout qu'à côté de ça, t'as l'impression que ils sont hyper frileux pour sortir des nouvelles licences, etc. J'ai envie de dire, voilà, enfin, on la boucle est bouclée, quoi. On va avoir un Call of Duty Modern Warfare rebooté qui révolutionnera pas la formule en plus, quoi.
Sachant qu'il y a déjà le remake de Modern Warfare qui est sorti sur cette génération de consoles.
Ouais.
Donc, il y aura deux Modern Warfare sur la même plateforme, tu vois, déjà. Et comme tu dis, le jeu vidéo est tourné en rond. Il y a Tomb Raider, il y a Hitman, qui a été rebooté aussi. God of War, qui est pourtant la suite, mais on l'a appelé juste God of War pour pas dire, ouais, c'est God of War 4. Du coup, marketingement, les gens vont pas dire, ah putain, c'est le 4, il faut que je fasse les trois autres avant. Mais non, bah, là, il y a écrit God of War, c'est le premier, ok, bah, j'achète. Mais c'est encore pire qu'au cinéma, parce que c'est vrai qu'au cinéma, on a eu beaucoup ces dernières années, des licences de films qui étaient sorties, dans les années 80, 90. Par exemple, je pense au reboot de Ghostbusters avec des femmes, ou bien Terminator qui est sorti avec une espèce d'armure à la Iron Man. Mais c'était des films qui avaient 20, 25 ans, il y avait un peu plus de temps. Là, t'as l'impression que c'est des jeux qui sont sortis sur la génération précédente, donc il y a moins de 10 ans. Et t'as l'impression que bah les mecs ils ont déjà tout inventé dans le jeu vidéo, il y a plus rien qui peut être créé, mis à part si t'es un indépendant ou bien un jeu on va dire double A ou bien moindre budget, et que les autres ils veulent pas sortir de leurs licences qui sont historiques. Pour qu'une licence meure, il faut qu'elle bide en fait. C'est pour ça que moi je suis content que par exemple Uncharted 4 a mis fin à la série Uncharted, comme ça au moins on sait que pendant un moment la licence va reposer, mis à part si Sony décide de filer la licence à quelqu'un d'autre et tout, mais si c'est pas Naughty Dog qui est derrière, moi personnellement je vais pas y toucher. Et là, avec Call of Duty, j'ai l'impression déjà que les mecs, bah, ils ont épuisé toute leur équipe créative. Enfin, je sais même pas si, à un moment, ils ont été créatifs, quoi, mis à part d'avoir eu l'idée de génie, d'avoir fait Modern Warfare, parce qu'il faut quand même le reconnaître que ça a très bien marché pour eux, c'était cool. Après ça, ils sont partis dans des directions où les gens ont commencé à dire « Ouais, mais Call of Duty, là, ça devient trop futuriste, là, c'est trop ceci, trop ceci. » Et bah là, ils reviennent à un moment où ils ont connu le succès. Et moi, j'ai vraiment peur, en fait, pour l'industrie du jeu vidéo, parce que là, je me dis « Ok, la génération touche à sa fin. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de nouvelles licences ?» Ou bien est-ce qu'on va revenir encore à des licences qu'on a déjà vues et revues? C'est complètement ahurissant au nombre de Final Fantasy sur lequel on est arrivé.
Ouais, enfin sur le cas Final Fantasy, je suis pas tout à fait d'accord parce que il y a rien de plus différent d'un Final Fantasy qu'un autre Final Fantasy en fait.
Ouais, non mais c'est pas ça que je voulais venir sur Final Fantasy, je voulais juste dire, tu vois, Final Fantasy, le dernier en date c'est le Final Fantasy 15, mais en vrai si tu compterais tous les épisodes avec les spin-offs et tout, on serait déjà à Final Fantasy 76. Après c'est vrai que Final Fantasy, même les trois qui étaient sortis sur PlayStation, Final Fantasy 7, 8, 9, bah les trois, ils avaient un système de gameplay qui était différent. Et ça, c'est vrai que cette licence-là a cessé de se renouveler à l'intérieur de son genre.
Honnêtement, si c'était comme ça sur pas mal de licences AAA, j'aurais pas grand-chose à redire, tu vois. Bon, ok, c'est genre, on est trop frileux pour appeler ça autrement, mais de toute façon, on sait très bien que d'un épisode à l'autre, ça va être radicalement différent. C'est ça qui est fait la spécificité de Final Fantasy par rapport à Dragon Quest, c'est que Final Fantasy, ils ont toujours dit, l'épisode suivant, ça n'a rien à voir avec le précédent, mis à part que tu vas retrouver Big Wedge et des conneries comme ça, tu vois.
Ouais, des clins d'œil.
Mais à part les clins d'œil, et à une certaine époque, j'aurais dit le Seal of Quality Final Fantasy, si tu veux. Bon, aujourd'hui, c'est plus trop vrai, hein, soyons honnêtes. Mais à part ça, Final Fantasy, fondamentalement, c'est juste un nom sur une boîte, quoi.
Ouais, ouais, non, c'est ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est des licences, en fait, qui disent, ouais, par exemple, on se revendique de telle licence, et du coup, on exploite le filon jusqu'à la mort. Mmh. Et comme tu l'as dit, tu vois, par exemple, Final Fantasy 15, t'as l'impression qu'ils avaient plus d'idées, ils ont essayé de partir dans une direction. C'est différent d'un Final Fantasy auparavant, mais c'est mauvais, tu vois. Bah, avant, quand on disait Final Fantasy, c'était une licence quasi mythique. Genre, les mecs, c'était pas possible à critiquer. Mais quand on a 76, bah, c'est sûr que dans l'autre, t'as des ratés, tu vois. Ça, faut pas se cacher que dans le jeu vidéo, au lieu d'être plus intelligent et de dire, ok, on a trouvé un truc qui marche et d'essayer de capitaliser ça sur le long terme, ils ont une idée qui cartonne du tonnerre et tout, et ils disent, ok, bah, il faut absolument continuer à l'exploiter tant qu'il y a de la hype. Si la hype part, et bah, t'as l'impression que les gens, ils vont s'en foutre. Alors que je pense que laisser une licence qui respire un peu, ça peut être la bonne chose.
Bah regardez Red Dead, hein.
Bah oui, Red Dead, 8 ans entre deux Red Dead, et quand tu compares un Red Dead Redemption 2 par rapport à Assassin's Creed Odyssey, qui sont deux jeux en open world et tout, bah tu vois quand même qu'il y en a un qui a beaucoup plus de travail que l'autre, parce que
bah, disons qu'il y en a un qui a une âme, quoi.
Voilà, alors voilà. Que l'autre, tu te dis que c'est un jeu, bah c'est le jeu par quête. Il y a un jeu, il est pas mauvais. Ça fait 5 jours de suite que au travail que je me bouffe la même par quête saumon champignon. Et quand tu arrives sur un Red Dead qui arrive une fois de temps en temps, tu te dis, ok, là je suis passé sur un plat un peu plus raffiné, ça me fait plaisir. Et moi, ce qui me fait peur en fait dans le jeu vidéo, c'est que bah t'as l'impression que tu vas dans ton magasin, tu vas il y a 10 ans, mis à part la jaquette qui a changé de personnage ou qui a changé un peu de logo, bah, ça a pas vraiment évolué tant que ça. Je dis ça, bien sûr, c'est une caricature que je fais qui est très grossière. Mais c'est un peu l'impression que j'ai, quoi.
Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec vous. Après, le truc, c'est que ce qu'on dit maintenant, finalement, on le redira dans 30 ans, parce que il y a aussi une logique financière tellement énorme derrière que, de toute façon, t'es obligé, comme Hollywood, ce qui leur plaît, c'est les formules. Donc, en fait, au final, t'auras zéro différence d'un opus à l'autre. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a tout ce vivier d'indé de double A qui va venir en fait faire contre-programme. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en fait, quand t'aimes le jeu vidéo, t'as quand même envie de voir aussi là où t'as 1000 développeurs, des moyens de fou, bah essayer de faire avancer.
Bah,
tu vois, c'est
une
pas
fois de temps en temps. Au moins, on dit pas qu'il faut qu'ils soient tous comme ça, mais au moins qu'il y en ait une fois de temps en temps. Chez tous les gros éditeurs, au moins un jeu comme ça qui soit un peu chiadé, quoi. Et malheureusement, la tendance, c'est plutôt, on va tous faire des jeux à service qu'on remplacera aussitôt que le prochain sortira, et puis voilà, quoi.
Après, il y a quand même un renouveau du double A qui fait un peu plaisir.
Ouais, enfin, avant de parler de renouveau, j'attendrai qu'il y ait plus de jeux comme Plague Tale. Hein.
Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr.
Parce que pour le moment, on est plus dans l'exception que la règle. Hein, si
ouais,
veux.
Mais après, c'est sûr que il y a pas trop d'issue, en fait. Financièrement, on est sur quelque chose de trop important pour qu'il y ait du changement ou autre. La créativité l'emportera jamais sur les millions, quoi.
Ouais. Mais après...
En tout cas, chez les gros studios.
Chez les gros studios, mais après, c'est vrai que on en parlait aussi la dernière fois, mais par exemple, des fois, il y a Sony qui tente certaines choses en mettant en avant des jeux comme Journey. Ouais. On l'a quelques fois, mais malheureusement, comme l'a dit Tyran, c'est un petit peu trop rare. Et c'est pour ça que là, je vais être content quand il y aura Cyberpunk 2077 qui va sortir, parce que je me dis, bon, là, il y a un jeu avec du gros pognon, il y a beaucoup d'ambition. The Witcher 3, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu. Je suis plutôt confiant sur le projet. Mais c'est pas tous les jours, je me dis, attends, qu'est-ce qui va sortir du paysage vidéoludique qui va se démarquer? Et même des fois, quand il y a certains jeux qui, au début, promettent d'avoir un concept original ou bien d'avoir déjà ne serait-ce qu'une ambiance sympathique, bah des fois ça se révèle très souvent être un pétard mouillé. Par exemple, je pense à Dead Island qui était sorti à l'époque où il avait mis un trailer qui avait mis tout le monde d'accord, tout le monde avait dit putain mais c'est quoi cette bande annonce de fou et
ouais,
tout.
Il s'est vendu sur le trailer.
Ouais voilà, et alors que quand tu joues c'était un jeu de zombies ultra classique mis à part t'étais au cocotier. C'est un jeu qui a misé sur la communication mais dans le fond bah c'est une belle boîte mais il y a rien quoi.
Voilà. Bon, messieurs, on va enchaîner sur un test de Plague Tale Innocence.
Je vous le promets, ce soir, nous dînerons comme des rois.
On dirait que ton festin n'a pas dit son
oh,
dernier
non
mot.
Non. Allez, lion, ne le lâche pas.
Un mauvais vent arrive, Amicia.
Mère,
chut, tu vas rester ici avec ton frère.
Allez, avance.
Pour la dernière fois... Où est votre fils ?
Amicia !
Vous êtes inconscient ! Partez tant que vous le pouvez !
Fuyez la sœur ! Prenez le garçon vivant !
Tu dois le protéger, Amicia.
Idiot, quoi ? Je suis pas idiot !
Je sais qui tu es, Amicia adorée.
Amicia ! Il a tué. Je voulais pas. Au sol. Il bouge. Les rats.
Pardon d'être malade, Amicia.
Non, non, non.
Plague Tale Innocence, c'est quoi? C'est The Last of Us à la française. Voilà. Merci, au revoir.
À bientôt.
Non, mais en vrai, fondamentalement, c'est pas un jeu qui va révolutionner quoi que ce soit. C'est un jeu qui est sympathique, qui a quelques bonnes idées, qui a quelques maladresses aussi. Maintenant, j'ai envie de dire la principale qualité de ce jeu et qui fait que pour moi, il se démarque par rapport à plein de choses auxquelles on a pu jouer ces derniers temps, c'est que voilà, c'est un jeu qui a des moyens et qui, comme je le disais tout à l'heure, a une âme. C'est-à-dire que tu sens que c'est pas un jeu qui a été conçu juste pour faire plaisir à quelques financiers. Au contraire, c'est plutôt le genre de jeu qui fait peur. T'imagines un jeu solo, linéaire, où on raconte des histoires avec un récit qui est plutôt rude d'ailleurs. C'est-à-dire
mon dieu, c'est horrible. C'est horrible, monsieur, nous sommes en 2000. Ah, je ne veux pas ces jeux de couloir. Enlevez-moi ça de mes yeux, s'il vous plaît, je ne peux pas voir ça.
Où sont les loot box.
En plus, c'est même pas un jeu en monde ouvert, tu vois, insulte ultime, quoi. On va jouer Amicia, donc, qui est une femme. Alors, oh putain, en plus, une femme. Oh non, mais c'est pas possible. Une femme, vous rigolez, là. Une gamine. Pire que ça, une gamine. Même pas une femme où tu peux faire des plans de caméra sur son cul, ce genre de choses. Non, une gamine. Donc, on va jouer Amicia, qui est la fille d'un noble au XIVe siècle, Robert de Rune. Amicia, donc, a vécu une enfance tout à fait parfaite. D'ailleurs, le début s'emploie tout à fait à illustrer la vie absolument merveilleuse qu'elle a avec son père, qui l'emmène chasser, etc. Enfin, bon, il y a quelques petites tensions dans la famille, notamment le fait que sa mère apparemment passe son temps à s'occuper de son frère qui est malade, qu'Amicia apparemment n'a quasi jamais vu de sa vie d'ailleurs, parce qu'il est très malade et du coup il est tenu à l'écart du monde extérieur, y compris de sa sœur. Elle se sent un peu seule, Amicia, parce que son père doit s'occuper du domaine familial, hein, il fait son devoir de noble, tout simplement. Mais tu sens quand même que malgré tout ça, voilà, c'est une fille qui aime ses parents, qui adore son père parce que visiblement, bon, il a élevé un peu comme un garçon, quoi. C'est-à-dire que voilà, on est au XIVe siècle, mais il a appris quand même visiblement à chasser, ce genre de choses, ce qui est pas très courant, voilà, on va dire. Finalement, on a une famille qui a l'air tout à fait sympathique. Sauf que là, patatras, l'Inquisition débarque et déglingue toute sa famille. Elle doit s'échapper avec son petit frère et elle va perdre au fur et à mesure de cette aventure son innocence. D'où le titre, Plague Tale, Innocence, parce que croyez-moi que la Amicia, elle va vivre des trucs qui sont pas très drôles, là, parce que si ce que je viens de vous décrire là déjà ça vous met le moral à zéro, attendez de voir la suite.
Hein. D'ailleurs j'ai une question par rapport à ça, j'ai entendu beaucoup de gens qui en parlaient par rapport au fait que ce jeu-là, c'est un jeu qui va raconter des choses qui sont assez rudes, mais il va pas insister là-dessus, c'est-à-dire que le joueur pourra toujours tourner la caméra. Mmh. Ils veulent pas, tu vois, ouais, insister sur le fait que, ah, t'as vu, la personne, elle est morte, là, elle se fait bouffer par les rats. Du coup, est-ce que c'est vrai qu'il y a cette ambiance, elle est bien retranscrite dans le jeu?
Bah, c'est un peu particulier dans le sens où t'as effectivement une ambiance qui est rude, mais il s'applique toujours à pas te mettre dans une ambiance dépressive, en fait, c'est-à-dire qu'il te montre le monde tel qu'il est. Mais t'as aussi des moments de respiration, et puis c'est bizarre à dire, mais le jeu est très rude et très léger en même temps, en fait.
Il y a des moments où je trouve qu'on bascule limite dans l'horreur, quand même, hein. Quand tu vois un mec qui se fait bouffer vite devant c'est pas non plus, et que tu vois le cadavre déchiqueté derrière, c'est
ouais,
quand même pas...
Ouais, mais t'es pas obligé, tu vois, tu peux aussi...
Là, je parle pas du tout d'obligation, je dis que c'est un jeu, moi, que je ne mettrais pas entre toutes les mains.
Ah oui, clairement,
parce que c'est un jeu qui, sous ses airs très sympathiques, est en fait, par moments, un pur jeu d'horreur, quoi. Mais pas l'horreur au sens tu vas avoir peur. L'horreur au sens où tu vas vivre vraiment des horreurs, quoi. Il y a des gamins qui vont vivre des trucs que ne devraient pas vivre des gamins, et, chose qui, vraiment pour moi, est très bien retranscrite, vont, au fur et à mesure de l'aventure, être complètement désensibilisés par rapport à ça. Et c'est finalement le truc, je crois, le plus horrible de ce jeu. C'est-à-dire qu'au début, on a une gamine qui a du mal, ne serait-ce qu'à tuer quelqu'un. La première fois que ça arrive, tu sens qu'elle est pas bien, quoi. Et à la fin, mais c'est une machine à tuer, quoi, Amicia. Et le truc, c'est qu'en plus, il n'y a pas de dissonance ludonarrative, parce que contrairement, par exemple, à Uncharted, où on...
Surtout Tomb Raider,
ouais,
en fait.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, ça m'a... J'allais penser à Tomb Raider, genre Lara Croft.
Lara Croft, ça m'a fait marrer, parce qu'en fait, Tomb Raider, dans le reboot, c'est, ouais, en c'est gros, la première fois qu'elle tue, elle est là, oh mon dieu, c'est la folie. Et 10 minutes après, t'es une machine à tuer, t'as un fusil à pompe.
Mais même pas, je crois que juste après, genre, elle est là, genre, oh putain, j'ai buté tout le monde. Et la séquence d'après, c'est tu déglingues tout le monde, tu vois, c'est genre...
C'est ça. Même pour reprendre l'exemple d'Uncharted, Nathan Drake, c'est quand même quelqu'un qui a l'air de tout à fait sympathique. Et t'as l'impression qu'il déglingue des gens sans trop se poser de questions, quoi. En fait, tu vois, c'est,
Ah oui, bah,
et, là, Amicia, c'est pas du tout ça, quoi. Elle est obligée. Tu sens pas qu'elle y prend du plaisir ou quoi que ce soit. C'est, elle reste humaine, quelque part, mais, tu sens que, au fur et à mesure, elle est désensibilisée par rapport à ça.
Mais au début,
mais
elle a beaucoup de
romans. En même temps, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a une vraie emphase avec le joueur. C'est que moi aussi, au fur et à mesure, par exemple, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que, quand tu vas sur l'écran titre du jeu, il y a une scène hyper choquante, la première fois que tu démarres, où tu vois des rats qui grouillent partout. Et là, t'as un chariot qui passe, les rats, ils s'enfuient parce qu'il y a de la lumière, et tu vois un cadavre complètement déchiqueté, etc. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, j'étais mal à l'aise, je trouvais ça un peu dégueulasse, tu vois, ce genre de truc. Et à la fin, t'es tellement désensibilisé par rapport à ça, tu fais « Ouais, d'accord, ok. » Il y a, en quelque sorte, une emphase avec le personnage principal, qui lui aussi, au fur et à mesure de l'aventure, va avoir des trucs tellement horribles que finalement, comment veux-tu ne pas désensibiliser par rapport à ça? Parce que sinon, tu deviens à moitié dingue, quoi.
Est-ce que tu trouves que l'évolution, par exemple, du personnage principal, elle est plutôt bonne? Ou bien c'est genre, on n'arrive pas à tuer genre le premier chapitre, et puis au bout d'un moment, il y a un basculement, et tu vois, elle s'en fout. Alors, ouais, est-ce qu'ils vont quand même lui mettre des doutes, même à la fin du scénario?
Alors, c'est vrai que c'est un peu brutal au début, mais de toute façon, ça arrive quasiment tout de suite, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui massacrent sa famille. Elle a deux, trois bonnes raisons de vouloir se défendre. Je pense notamment à un niveau où, qui est le niveau où on met l'emphase sur le fait qu'elle a fait, tué quelqu'un. Elle a quand même deux, trois raisons de tuer le Gus, quoi, tu vois, enfin, parce que si elle le tue pas, c'est lui qui va la tuer, en fait.
Ouais, bah oui, non, mais.
Donc, voilà, c'est simple, tu vois. Hein, c'est, et, pendant tout le combat, elle essaie de lui faire entendre raison. Tu vois, c'est pas genre, elle est là, elle dit rien, et puis d'un seul coup, oh mon dieu, j'ai tué quelqu'un. C'est non, pendant tout le combat, tu vois, elle essaie de discuter avec lui, etc. Mais tu vois que le mec en face, il a pas envie de l'écouter, en fait. Et ce que je trouve intéressant, c'est que même en termes d'ambiance sonore, le travail sur le son dans ce jeu est extraordinaire. Mais je parle même pas que de la bande-son, qui déjà est d'une qualité... c'est une bande-son, tu sais, qui est adaptative en fonction du contexte, qui met les bonnes ambiances quand il faut, etc. Mais en plus de ça, t'as toute la partie purement bruitage, qui accompagne magnifiquement l'action, quoi. Et en plus, pour moi, la meilleure partie de la bande-son du jeu, c'est les doublages. Ça,
oh
par contre, je tiens à le signaler.
C'est la folie.
Pour une fois qu'on a un studio français qui n'a pas des doublages français absolument dégueulasses, et même plus que ça, des doublages français qui sont extraordinaires. Moi, je veux dire, quand j'ai vu que le principal bad guy du jeu, c'était la voix de Jafar, j'ai fait,
Ah, t'as joué en VF alors?
Absolue,
ah oui, oui, VF obligatoire, franchement.
Ah ouais,
pour
ouais.
une fois, c'est un des rares jeux où je dirais que la VF est bien meilleure que la
ah
VO.
Ah oui, oui, au-dessus.
D'ailleurs, la VF, normalement, c'est la VO. On voit les habitudes
ouais, mais, mais pour le marketing, c'est la VO parce que le jeu, il était...
Ouais, oui, non, mais
oui, bah,
peut-être pour le marketing.
Évidemment,
mais...
parce qu'il y a un plus gros potentiel. Mais au niveau de la qualité, on est sur enfin du high level, quoi. C'est vraiment...
Mais j'insiste, la
moi,
VO
ça m'a même
de ce jeu, c'est la VF. Tu écoutes la version anglaise, même si elle est de bonne qualité, tu vois que celle qui a été la plus bossée des deux versions, c'est la VF. C'est tellement juste, tu peux pas faire un travail aussi qualitatif quand t'es pas tout le temps derrière le cul des acteurs à leur dire que non, tu dois jouer comme ça cette scène. Ouais. Ouais, c'est pas possible.
Je suis fan de voix off, etc. Et il y a des moments, ça m'a presque sorti, où j'étais là quand il y a un nouveau perso, j'ai fait « Mais putain, mais lui aussi, il joue bien !» et tout. Et j'étais là « Mais ouais, vraiment, la VF, elle est géniale. » Et comme tu l'as dit, pff, la voix de Jafar, là, en méchant principal, pff, franchement, génial, quoi. Mais en tout cas, même au niveau technique, on n'en a pas trop parlé. Mais pour une petite équipe, franchement, je trouve qu'ils ont géré, même si t'as quelques ralentissements sur PC, mais rien de bien méchant. Et puis, au niveau des animations, de temps en temps, tu sens que c'est pas la folie. Mais sinon, globalement, techniquement, c'est vraiment propre. Je sais pas ce que t'en as pensé de ton côté.
Alors, on précise que... Je sais plus comment ça s'appelle, cette technique, tu sais, qui est basée sur des photos. Il y avait un autre jeu qui avait fait ça. Enfin, bref... c'est basé sur des éléments réels en fait, et c'est vraiment super bien rendu. Enfin, les décors, il y a des détails de fou mais de partout quoi. Et c'est pour moi la principale qualité de ce jeu vraiment en termes esthétiques. Des fois, il y a des trucs un peu chelous, tu sais, sur les persos, mais par contre, les décors, irréprochables quoi. C'est une expérience sur rail, mais c'est des putains de beaux rails quoi.
Clairement.
Par contre, il y a un truc qu'il faut surtout pas faire dans le jeu, c'est ne mettez surtout pas le personnage face caméra. Parce que là, par contre, l'Uncanny Valley, là, tu sens que ils ont fait le pareil, que les gens n'allaient jamais tourner la caméra pour regarder le personnage de face, mais c'est vraiment pas beau.
Bah même, je regardais pas trop les personnes lorsqu'ils sont en train de parler, tu sais, en jeu. Vaut mieux pas regarder non plus tes compagnons, quoi, parce que C'est pas ça. La folie.
Bon, sinon, pour se concentrer sur le jeu quand même.
Ah, parce que là, je sais pas comment on y joue, moi, si vous me dites pas.
Bon, en même temps, j'ai dit comment ça jouait en disant que c'était un jeu comme Last of Us. Hein. Je veux dire, les mécaniques, on les connaît, quoi. Ça, t'as plusieurs personnages, t'as certains personnages qui peuvent faire des actions contextuelles. Tu leur dis d'aller faire ça, etc. Ça va te permettre de résoudre des puzzles. Et d'ailleurs, c'est cette interaction avec les personnages qui va permettre de créer une empathie avec eux. Enfin, franchement, il y a rien de révolutionnaire là-dedans, quoi. Je veux dire que tout ce qu'on voit dans ce jeu, c'est des trucs qu'on a déjà vu dans The Last of Us, mais par contre, il est fait super bien, quoi. Le seul reproche que je ferais à ce jeu, et c'est un reproche qu'on pourrait déjà faire au jeu Naughty Dog, c'est ce côté vas-y, je vais ramasser plein de merde. Pourquoi je ferais un reproche au jeu à ce niveau-là ? Parce que je trouve que pour un joueur comme moi qui a tendance à vouloir fouiller les niveaux pour récupérer des trucs, bah ça le distrait un peu du cœur de l'expérience. C'est-à-dire qu'au lieu de te consacrer sur l'ambiance, sur la narration, etc., il y a des moments où un joueur comme moi, qui a pour habitude d'être un peu complétionniste, tu vois, ça va complètement briser le rythme de la narration, parce que le mec, il va partir dans une direction totalement contre-intuitive pour aller voir s'il y a un truc qui est pas caché dans le coin là-bas. Et ça, je pense que c'est vraiment un vieux reste de gameplay qui a pas grand-chose à faire là et qui en plus n'est pas très intéressant, quoi. Très sincèrement, le côté collectionnite d'objets, vas-y si tu veux faire le 100% du jeu, il y a plein d'objets qui sont planqués dans les niveaux, etc. Le côté je vais crafter pour améliorer genre mon arme, etc. Honnêtement, ça n'apporte pas grand-chose et ça distrait le joueur de ce qui devrait être le cœur de l'expérience, à savoir la narration.
Et justement, en parlant de ces objets-là, tu parlais du fait que ça distrait le joueur de son objectif principal. Parce que dans The Last of Us, les objets, la plupart des objets que tu ramasses, c'est pour survivre. Tu cherches des munitions ou bien des bandages pour te soigner. Mais est-ce qu'il y a des objets qui sont totalement inutiles? Par exemple, je sais pas, moi, une figurine de tel ou tel personnage qui est juste là pour, ouais, parce que ça, c'est le truc qui me...
Non, mais pas des trucs totalement non immersifs comme une figurine, tu vois. Mais des fleurs, par exemple. Tu vas chercher des fleurs où il va y avoir un petit dialogue entre Hugo et sa sœur. Et à chaque niveau, tu vas avoir une fleur comme ça. Mais t'auras aussi des objets totalement inutiles, genre une carte de France. Alors, c'est pas non plus des objets qui n'ont rien à faire là, c'est-à-dire qui sont cohérents avec l'univers, mais d'un point de vue même pas de gameplay, qu'est-ce que ça apporte à l'expérience ? Pour moi, ça ne colle pas avec l'expérience, en fait.
Bah, ça apporte un peu de... Parce que si les personnages, ils discutent justement, oh, regarde, j'ai trouvé la carte de France, et il y a un dialogue, ça apporte un peu de lore.
Non, déjà, il n'y a pas tout le temps un dialogue.
D'accord,
premier point. Il y a que pour les fleurs, où vraiment,
il y a un échange
entre Hugo et sa sœur. Et souvent, tu trouves des merdes qui ne servent strictement à rien, quoi. Et honnêtement, moi, je veux bien qu'on mette des objets comme ça, mais tu les mets pas dans un coin caché où ça va inciter le joueur à aller fouiller un truc totalement à l'ouest au lieu qu'il se concentre sur la trame principale, quoi.
Ouais, non, mais moi, de mon côté, c'est vraiment un jeu que j'ai apprécié. Après, au niveau du gameplay, concrètement, comme tu l'as dit, c'est ultra classique, mais c'est vraiment là pour servir l'histoire, les personnages, etc., qui d'ailleurs sont, enfin, moi, je trouve tous hyper bien écrit. Donc après, au niveau du gameplay, moi, la seule chose, c'est qu'il y a quand même un moment où j'ai plus ressenti trop de difficultés, c'est-à-dire que j'avançais en mode automatique. Et au-delà de la difficulté même, c'est-à-dire que j'ai plus ressenti du tout la peur du début. Donc c'est pas vraiment négatif, mais ça m'a un peu gêné dans le sens où, ça y est, t'étais devenu une machine. T'as besoin d'un truc, c'est toujours au bon endroit, tu vois, c'est-à-dire t'avances, t'as besoin de tel truc pour éliminer les ennemis, donc c'est posé là de manière convenable dès que t'en as besoin. Donc franchement, c'est vraiment hyper classique, mais derrière, il y a aussi tout l'aspect craft, etc., qui était, comme tu l'as dit, bah vraiment inutile, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des fois où j'oubliais, tu sais, je voyais la table, je fais « Ah ouais, c'est vrai, il y a ce truc-là pour crafter », et puis ça apporte pas grand chose, même en termes de gameplay, finalement, parce que ça, c'est quoi, ça fait que ton truc va, tu vas pouvoir tirer un peu plus vite avec ta fronde ou machin. C'est vraiment les trucs de stats un peu inutiles.
Moi, honnêtement, je pense qu'ils auraient pu faire les mêmes objets, sauf que t'as pas les améliorés, en fait. Tu gardes le même objet du début à la fin, et puis voilà.
C'est hyper simple, parce que les trucs de craft, là, ça servait, mais vraiment à rien. Le jeu est quand même fait pour un grand public, quoi. On est sur un, bah, comme on l'a dit, Last of Us, les trucs Naughty Dog ou Sony, où c'est fait pour que tout le monde puisse y jouer. Donc, de base, ça reste plutôt simple. Donc, derrière, tous ces trucs-là sont pas extrêmement utiles.
Un autre truc, moi, qui m'a gêné, c'est le côté dans les puzzles qui ne sont pas ouverts, en fait. C'est-à-dire, très souvent, je vais te retrouver face à un puzzle à la con avec une solution. Alors, je demande pas non plus d'avoir des puzzles complexes, tu vois. Mais j'aurais bien aimé avoir quelque chose d'un peu plus ouvert sur les solutions proposées aux joueurs, etc. Quelque chose d'un peu plus créatif. Parce qu'il y a vraiment des moments où tu disais, OK, donc là, il faut que j'étais limite en mode pilote automatique, tu vois. C'est, OK, d'accord, on m'a mis cet objet-là, donc je vais utiliser ça pour faire ça, ça, ça. Et, finalement, le côté puzzle du jeu, où tu vas jouer avec les rats, etc. Les rats qui sont très bien rendus, d'ailleurs, hein, je suis bluffé par l'aspect, on affiche des milliers de rats à l'écran et le jeu ne bronche pas.
Surtout au début, là, ça me donnait des frissons quand ils arrivent et tout. C'est vraiment hyper bien fait, ça.
Mais par contre, du coup, je trouve que malheureusement, ça manque de variété au niveau des solutions proposées aux joueurs. Quoi.
Et les énigmes entre Resident Evil et Uncharted, ça se passe où?
Bon, c'est à peu près aussi inintéressant que dans les deux autres. Hein. Enfin, parce que pour moi, les deux exemples que tu as cités, c'est pas des exemples intéressants, en fait, en termes d'énigmes.
Donc, non, mais dans Resident Evil, on va dire, les énigmes sont assez farfelues. En général, trouver un diamant...
Il y a rien de farfelu.
Ah ouais, tout est très bateau, ouais, c'est vraiment...
Mais ça s'intègre bien, pour le coup, à l'expérience, quoi. Mm. C'est-à-dire que, vraiment, il y a des moments où on te demande de jouer avec les rats pour qu'ils aillent bouffer tel mec... pour faire en sorte qu'il s'éloigne de tel passage pour que tu puisses passer, etc. Enfin, il y a vraiment une gestion de la foule, j'ai envie de dire, des rats, quoi, pour faire en sorte que, ben, il y a un moment, t'as une mer de rats qui va se retrouver face à toi, et cette mer de rats, ben, il va falloir la gérer comme tu peux, quoi. Et à chaque fois, ce que j'aime bien, par contre, c'est que très souvent, ils ajoutent, tu sais, une espèce de tension, comme c'est un jeu qui est très fléché. Ils vont te mettre juste ce qu'il faut, en fait, pour que tu arrives à passer, mais in extremis, quoi. Par exemple, là, tu vas distraire le garde, sauf que au bout, il y a un obstacle où il faut que tu fasses passer ton petit frère devant, que tu lui fasses la courte échelle pour qu'il passe et que tu passes derrière. Et là, le garde, il va se retourner au dernier moment quand tu vas arriver de l'autre côté. Et c'est timé précisément pour, tu sais, t'es ce petit stress qui monte comme ça. Et c'est pareil avec les rats. C'est-à-dire que les rats, il y a des moments où tu peux allumer des torches, mais c'est des torches qui vont se consumer assez rapidement. Et le jeu, il est timé de manière assez précise pour te faire ressentir le stress du putain, j'ai ma torche là qui est en train de s'éteindre et il y a plein de rats, des milliers de rats qui sont autour de moi, ça grouille de partout, il y en a même sur les murs,
et
tu vois.
Et en plus, comme tu tiens la main à Hugo, tu sais, tu vas pas très vite, donc t'es là en train d'avancer, tu fais putain, mangue-toi petite merde.
Mais d'ailleurs, en parlant des rats, en fait, parce que là vous en parlez du point de vue énigme, mais en termes de menaces, ils apportent vraiment quelque chose ou pas?
Ah mais oui, c'est le cœur du jeu. C'est l'objet du jeu, quoi, les rats, en fait. Hein. Mmh. Non seulement ils sont là d'un point de vue mécanique, mais d'un point de vue histoire, ils sont centraux.
Ouais, et c'est pour ça que je pense que tout a bien été réfléchi en amont. Tout est hyper bien imbriqué. Là, même si on a l'air un peu négatif sur le gameplay, moi, ce gameplay, malgré le fait qu'il soit classique et qu'il y ait pas mal de petits défauts, ça m'a pas du tout gêné dans l'expérience et ça restait vraiment agréable. Après, la menace des rats, ouais, elle est vraiment constante. Hyper bien maîtrisé, c'est-à-dire qu'en plus, ça évolue tout le temps. J'ai jamais senti ce côté répétition. À chaque fois, t'as des nouvelles façons d'interagir avec les rats, et t'as toujours cette menace, parce que par exemple, enfin, je spoil rien, mais t'as des moments où tu peux faire varier des petits faisceaux lumineux, et voilà, t'as toujours ce côté où même si t'es bien et t'es dans ta petite routine, bah t'as quand même un léger faisceau lumineux et toi tu passes entre les rats là qui sont en plus ils viennent toujours vers toi parce
Ils sont vénères, hein. Ils essaient toujours de te bouffer.
Ouais, ils essaient de te bouffer et comme il y a la lumière, ils sont à un centimètre de tes pieds là. Je suis ah putain, tu passes, tu vois. T'as toujours, même si bon au fur et à mesure de l'aventure effectivement tu les crains moins, mais t'as toujours cette crainte des rats et puis de l'inquisition également, quoi.
Et il y a un truc que je trouve très intéressant, moi, avec justement cet ennemi particulier que sont les rats, c'est que justement, c'est des créatures qui existent vraiment dans notre monde, alors que bah, des zombies, jusqu'à preuve des contraires, on en a pas vu. Et par exemple, dans Resident Evil, quand je m'amuse à jouer au jeu, bah je cours partout, je rigole, j'explose la tête des zombies, je fais des headshots, je m'amuse. Mais là, le fait que ça soit des rats, c'est des créatures qui existent, et que...
Bah, c'est des créatures pour lesquelles on a des phobies, surtout, quoi. Il faudrait, pareil, avec des araignées, tu vois, on serait pas bien, hein.
Ouais, mais après, chacun sa phobie, j'ai envie de dire. Mais rien que le fait que, même si t'as pas de phobie particulière envers ces animaux-là, est-ce que le fait que, tu vois, ces créatures existent vraiment, justement, la menace, elle est pas encore plus forte que si ça serait des créatures surnaturelles, ça serait, par exemple, je sais pas, moi.
Mais oui, parce que c'est crédible. Ouais. C'est crédible. Alors, il y a quand même un côté un petit peu surnaturel, à Serra, hein. Sans trop en dire, il y a une scène au début,
Vous foutez de ma gueule, là.
Ils sont contrôlés par Maître Splinter.
C'est pas des rats normaux, ça. Ils font des
c'est
trucs bizarres.
C'est pas comme ça que ça se passe. Mais en plus, c'est double parce qu'en fait, t'as effectivement cette menace qui est réelle. Mais en plus, t'as, bon, quelque chose qu'on voit encore assez, enfin, pas souvent maintenant, mais qui est plutôt utilisé, bah, dans The Last of Us, dans le premier Walking Dead de Telltale, dans God of War. C'est aussi le fait d'avoir un gamin avec toi, quoi. Pour moi, ça augmente aussi un peu ce côté où t'as envie de le protéger, etc.
Il y a des moments où j'ai eu envie de le tuer quand même. Hein.
Oui, oui, bien sûr. C'est... Il y a des moments où je suis... Ouais, ouais.
D'ailleurs,
évidemment.
Est-ce que le gamin peut mourir, celui qui nous accompagne, ou c'est comme The Last of Us, le personnage qui nous accompagne est invincible?
Alors, déjà, il n'est pas invisible.
Ouais.
Si c'est ta question. Contrairement à The Last of Us, où t'avais des moments où l'immersion était complètement brisée. Parce que
mais
tu
tellement,
voyais
mais tellement.
Ton compagnon qui se baladait tranquillos devant les ennemis, il se passait rien, tu vois. Ouais. Là, il se fait repérer le gamin, c'est bon, quoi.
C'est fait,
alors, techniquement, il meurt, mais je crois pas que tu vois, parce que t'as, si Amicia ou les autres, ils meurent, t'as l'animation,
ouais, enfin,
mais t'as pas l'animation où tu vois Hugo.
Les
mourir.
Autres, c'est des gamins aussi, hein.
Ouais, ouais.
Et c'est des gamins aussi, alors ils sont peut-être un peu plus grands, hein, mais à des moments, ils sont explosés la gueule quand même.
Ah
hein,
oui, oui, clairement,
permettre, clairement. Et ça aussi, ça m'a étonné. Par contre, ça, c'est un truc, mais que je trouve vraiment osé, et ça, c'est un parti pris que je veux saluer, c'est que, à ma connaissance, les jeux qui te font jouer des gamins qui vont vivre des horreurs et qui, par moments, sont tués, j'en connais pas beaucoup.
Bah non, parce qu'il y a la protection, tu sais, la fameuse protection qu'il y a dans Skyrim, c'est-à-dire, t'as la licence to kill, mais les gamins, non, c'est... Tu te demandes même d'ailleurs pourquoi dans ces jeux-là on n'envoie pas directement le gamin dans Skyrim là, tu sais, le fils du Jarl là, pour affronter le dragon de merde là, parce que vu qu'il peut pas mourir. Ouais, c'est ça. Non mais moi je trouve ça aussi intéressant. Ça, j'ai un peu marre de cette phrase de bateau qui est toute faite, qui dit ouais le jeu vidéo devient de plus en plus mature, mais au moins ça progresse un petit peu, et ça c'est intéressant de voir justement qu'aujourd'hui on arrive justement à avoir des gamins qui meurent à l'écran, même si c'est pas le truc dont je rêve le plus, mais au moins il y a des studios qui ont pris le parti de dire on va raconter une histoire, il y a des enfants, mais on va pas faire un truc
mais en plus c'est fait intelligemment, tu
ouais,
vois,
c'est
voilà,
pas
genre,
c'est pas gore,
on va montrer un gamin qui s'est démembré ou une connerie comme ça, c'est juste oui, il s'est fait tuer, voilà, bon ça arrive hein, bienvenue au Moyen Âge quoi, enfin tu vois, c'est ça serait absurde. T'es face à l'inquisition, les inquisiteurs, ils en ont rien à foutre que t'es un gamin, quoi. Ils te tuent, point, voilà.
Ouais, bah voilà. Non, mais moi, ce que je trouve ça intéressant, c'est qu'ils ont pas justement édulcoré leurs propos par rapport à ce que tu joues des gamins. C'est la merde, hein, à ce moment-là, en France. Et bah, du coup, bah, la merde, tu la ressens en termes de gameplay ou en termes d'histoire. Et je vois pas pourquoi on devrait cacher des choses. C'est pas en cachant des choses qu'on rend justement le jeu vidéo plus intelligent ou même d'autres médias. Et c'est ça qui est intéressant.
Et ce que j'ai trouvé intéressant, je sais pas ce que t'en as pensé, Dwayne, c'est que c'est des gamins qui sont crédibles, en plus.
Exactement.
C'est-à-dire qu'ils font preuve d'une certaine maturité pour leur âge, mais il y a plein de moments qui te rappellent que, oui, mais ça reste des gamins quand même.
C'est là où l'écriture est intéressante et rappelle un peu les anciens films à l'époque, là, ou enfin, les E.T. ou machin. Et, ouais, vraiment, ils te font ressentir que c'est des gamins, mais derrière, c'est bien écrit et ils font quand même un peu plus que leur âge et ils sont pas non plus totalement débiles. Et même dans leurs interactions, c'est toujours hyper bien amené. T'as pas de drama inutile non plus. C'est-à-dire que même quand ils se chamaillent, tout ça, ça se rabiboche de manière normale, quoi. T'as pas de drama qui dure sur la longueur inutilement. Enfin, globalement, dans ce jeu-là, je trouve que tout est hyper bien dosé et plutôt bien pensé. Et à ce niveau-là, c'est pareil, quoi.
Voilà. Donc, globalement, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que on a là un jeu narratif, linéaire, bien pensé au niveau de ses mécaniques, même s'il y a deux, trois trucs, moi, qui me font tiquer, et mais qui, je pense, m'ont plus touché que certains joueurs, parce que moi, je suis un joueur complétionniste. Et donc, moi, tu me montres une libellule dorée au loin, bah, je vais aller voir ce qui se passe, quoi, tu vois. Et je pense que c'est pas une bonne idée de mettre ce genre de mécanique-là pour des joueurs qui sont comme moi. Mais par contre, c'est une expérience qui a un tout qui est quand même assez cohérent. À une époque où on a une tendance à faire des jeux fourre-tout, qui n'osent pas être linéaires, parce que maintenant il faut faire que des jeux à monde ouvert, qui n'osent pas raconter des histoires, parce que tu te rends compte, avoir une narration forte, c'est risquer de segmenter le marché... Là, tu vois, on a des personnages qui ont du caractère, qui vont vivre des choses qui sont horribles, mais en même temps, on essaye de te raconter quelque chose d'intéressant. Bah voilà, moi, j'ai trouvé ça super cool. Alors, j'irai pas non plus jusqu'à dire, comme pas mal de personnes, que c'est le jeu de l'année, tu vois. Déjà, ne serait-ce que par rapport à un Brothers, par exemple, c'est pas un jeu qui m'a marqué comme a pu me marquer un Brothers, mais c'est un jeu où j'étais immergé tout le long et où j'ai passé un putain de super moment, et ça fait plaisir de voir un jeu solo comme ça qui raconte des histoires, quoi.
C'est clair. C'est totalement validé et je suis surtout très content pour Asobo. C'est toujours sympa de voir un studio comme ça qui faisait des trucs de commande, mais qui se débrouillait bien parce qu'au niveau technique, ils travaillaient pour pas mal de monde. Mais qui, voilà, c'est leur premier bébé. Ça a l'air de bien fonctionner. On verra ce que ça donne niveau chiffres. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire.
Pour le moment, c'est resté plus longtemps dans le top des ventes de Sim que Rage 2.
Hein. Ouais, ouais.
Ça, je ne dis rien.
Ah, d'ailleurs, douche froide. Là, j'ai regardé un peu les tests de Rage 2. J'ai pas trop envie. Mais enfin, bref.
Bref, je propose qu'on s'arrête là pour cette semaine et qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Bye bye.
Ciao.
Salut à tous et jouez bien.